Donc, comme je le disais, je vais suivre les trois commentaires de Kantorowicz, mais peut-être en important ou en les déplaçant quelquefois, puisqu'il s'attache à trois scènes successives de ce retrait de Richard, de la dignité de roi. La première scène, c'est à l'acte 3, dans la division du folio, scène 2. C'est un moment où le roi rentre d'Irlande, où il est allé réduire une rébellion, et il retourne en Angleterre et débarque sur la côte du Pays de Galles. Pour rappeler le contexte, c'est-à-dire ce qui est les deux premiers actes de Richard II, simplement rappeler qu'il a en face maintenant d'une double rébellion. La première, c'est celle de Henry Bolingbroke, le comte de Hereford, le fils de Jean de Gand, qui a été banni par lui après ce duel judiciaire qui devait opposer Bolingbroke avec Marlborough, le duc de Norfolk, avec une sorte d'ordalie. Le vainqueur devait être celui qui disait la vérité, mais qui est interrompu avant même que le combat puisse tenir par Richard II, à la fois pour des arguments qui consistent à penser qu'il veut sauvegarder la paix du royaume, qu'il s'agit là d'une querelle personnelle, mais en fait, peut-être avec cette crainte du roi devant sa possible implication dans le meurtre de son oncle Woodstock. Et de l'autre fait important, qu'après le bannissement des deux protagonistes, Marlborough est banni à vie et Bolingbroke est banni pour 6 ans, le deuxième fait, c'est la mort de Jean de Gand, le père de Bolingbroke, qui le fait devenir normalement, avec la théorie des noms, le duc de Lancastre, mais qui ne le devient pas parce que Richard II a confisqué à la mort de Jean de Gand les biens et les terres, dont le duché de Lancastre, de la famille. Et donc, Bolingbroke revient avec cette double grief, c'est-à-dire le bannissement, et d'autre part, la confiscation de ses biens et de ses terres, et donc, du coup, dans un sens, de son nom même, comme Lancastre. La deuxième révolte, c'est une révolte qui est celle des nobles et des pairs du royaume menés par Northumberland, qui se sont révoltés contre le gouvernement de Richard, qui est décrit dans les deux premiers actes, en fidélité d'ailleurs avec les chroniques, qui est décrit comme violant les lois fondamentales non écrites du royaume, c'est-à-dire d'un côté la confiscation du royaume comme un bien propre, que l'on peut affirmer, dont le roi est désigné comme le landlord, le propriétaire, et donc du coup une violation de cette tension qui se redoublait entre le corps politique et le corps naturel. Le roi agit comme un corps naturel d'un individu qui s'approprie ce qui n'est pas à lui, puisque ce royaume est lié au corps politique. Et donc, il y a là une première accusation, le roi comme landlord, le roi comme donnant à ferme son royaume, et d'autre part, tout un ensemble d'exactions et d'arbitraires dans la fiscalité royale. Donc, les droits coutumiers, comme il est dit quelque part, par un des nobles, sont violés par la politique de Richard, et donc, du coup, il se coalise contre lui, considérant que, et ça c'est la formule qui pourrait être très proche de la théorie des deux corps du roi, « the king is not himself ». Le roi n'est plus lui-même, puisque le roi avec un petit R ou un petit K trahit en violant les droits coutumiers ce que doit être le roi avec un grand K. Le roi qui est la personne incarnant, incorporant la dignité royale. Et finalement, la rébellion est justifiée par Northumberland et les autres pairs du royaume comme étant une voie pour faire que la majesté se retrouve elle-même, en quelque sorte, le roi trahissant la royauté. Et du coup, on voit que l'enjeu qui est là posé, qui est un enjeu fondamental dans toute la théorie politique du XVIe siècle, c'est le droit à la résistance, c'est-à-dire ce droit à la résistance qui est affirmé à la fois par Bolingbroke et par les grands du royaume contre un roi qui usurpe ou viole les droits coutumiers, avec une subtile distinction dans le cas de Bolingbroke lorsqu'il revient et qu'il peut être accusé d'avoir violé la décision du roi, comme Hereford, c'est-à-dire comme banni, il peut accepter le décret royal, mais comme Lancastre, c'est-à-dire comme celui qui est dans l'héritage du patrimoine, de la lignée et du nom, il est spolié de manière illégitime par la confiscation de ses biens. La même personne ici joue comme individu et comme lignée. Et inversement, York, l'autre oncle du roi, lui défend la légitimité de la royauté. Il a été nommé gouverneur d'Angleterre lorsque Richard est parti pour l'Irlande. Et dans son discours, il rappelle que le roi est le moins a reçu une onction divine. Et donc, la résistance ne peut être contre ce lieutenant de Dieu sur terre. On est donc dans ce contexte d'une double rébellion, d'un débat en particulier porté par York sur la légitimité ou non de la résistance, lorsque cette scène apparaît. Et c'est une scène qui est la première où se fait cette inversion dans la position du roi. La scène commence par un monologue, par une intervention de Richard, qui assume totalement, lorsqu'il arrive en Angleterre, il retourne en Angleterre, il assume totalement cette image classique du roi identifié à la lumière, au soleil, high of heaven, sight of the day, et ses ennemis identifiés à l'ombre, à la nuit. Et à la fin de la scène, après tout le processus que je vais essayer de décrire, l'image est inversée et une très belle expression de Richard est d'opposer Richard's night, la nuit de Richard, à Bolingbroke's fair day, au grand jour, à la lumière éclatante de Bolingbroke. Et toute la scène est prise dans cette inversion de la métaphore solaire et nocturne de la royauté. Le mouvement de la scène est donné par une accumulation, une succession de nouvelles funestes reçues par Richard. D'abord, le spectateur l'a vu à la fin du deuxième acte, il comptait sur l'appui des troupes galloises, elles se sont débandées parce que le roi ne revenait pas. On lui décrit la révolte du royaume à travers des figures assez classiques, des vieillards, des jeunes gens, des pauvres, des artisans et des fileuses, tous ligués contre lui du fait de ses exactions fiscales. On lui décrit que finalement, d'une certaine manière, York l'a abandonné et s'est rallié à Bolingbroke, et aussi que les conjurés se sont déjà emparés de ses conseillers les plus proches, Bushy et Green, et qui ont été exécutés. Alors, ces éléments-là qui sont comme cela scandants, les nouvelles que reçoit Richard et qui, peut-être, sont les moments qui le font passer de la lumière éclatante à la nuit, sont des éléments très importants pour la discussion sur abdication-déposition. Dans la mesure où ce que l'on voit là, c'est que le roi est privé de la réserve de force qui fonde la domination politique et qui, du coup, cette force présente et qui vient à lui manquer. Il n'a plus d'armée, il n'a plus d'alliés. Et ce qui assure la croyance dans la représentation de la puissance du souverain. Je pense qu'on peut ici prendre appui sur l'œuvre de Louis Marin pour comprendre ce qui advient dans cette scène, c'est-à-dire l'idée fondamentale selon laquelle l'absolu de la force réelle qui est celle d'un roi qui dispose de moyens, et en particulier de moyens militaires, n'est pas nécessairement montrée, exhibée, mobilisée, mais qu'elle est toujours présente comme une manière de perpétuer la puissance, si on admet que la puissance, c'est la croyance dans la puissance. Et du coup, dans le cas de Richard, dans ce moment-là, il est privé de cette réserve de force, non montrée, mais toujours mobilisable, mais toujours présente, et en particulier toujours présente dans les représentations de ceux qui croient profondément en la force du pouvoir, une force qui n'est pas spectaculairement mobilisée, mais une force qui est toujours implicitement présente. Et c'est de cette force dont il est dépourvu, dont il est privé, et donc du coup qui vont mener à une nécessité et non pas à un geste d'abdication volontaire. Le passage plus central dans cette scène, c'est évidemment le premier temps de ce retrait du corps naturel de la dignité politique. Et on retrouverait sur ce mouvement une duplication de ce qui est la structure même de la scène, parce qu'en son commencement, Richard, retourné en Angleterre, réaffirme cette unité entre le roi comme personne et le royaume comme dignité. Et c'est la scène où il retrouve sa terre. Earth est répété 4 fois dans le début de cette tirade de Richard. La terre est caressée, elle est accueillie par le roi, et donc du coup, elle est le fondement de cette identité qui réaffirme la sacralité du roi comme lieutenant sur terre de Dieu et comme incorporant en sa personne le royaume, de la même manière que le royaume incorpore sa personne. Je prends cet exemple. Ainsi, quand ce voleur, ce traître, Bolingbroke, qui durant tout ce temps festoyait dans la nuit, tandis que nous errions parmi les hommes des antipodes, curieuse manière d'écrire l'Irlande, nous verra à l'Orient montré sur son trône. Ses trahisons viendront empourprer son visage et, incapables de soutenir la vue du jour, elles trembleront d'effroi devant son péché. Toute l'eau de la mer houleuse déchaînée du front d'un roi ne peut laver l'onction sacrée. Le souffle des humains ne saurait déposer le représentant élu par le Seigneur. Pour chaque homme que Bolingbroke a enrôlé, pour lever un acier meurtrier contre notre couronne d'or, Dieu, pour son Richard, à sa solde recrute un ange glorieux. Et si les anges livrent combat, les faibles hommes succombent, car le ciel protège toujours le droit. Donc vous voyez, il y a le rappel des éléments qui définissent la sacralité du roi, anointed king, c'est-à-dire de recevoir l'onction, le baume sacré, deputy elected by the Lord, le lieutenant élu de Dieu, et finalement cette formule God for his Richard, c'est-à-dire la sacralité du roi, et qui est renforcée par cette image que les troupes célestes des anges viendront forcément défaire les troupes terrestres de Bolingbroke. Mais cette réaffirmation par Richard, à la fois par ses gestes des deux corps du roi, le roi et le royaume, et par sa rhétorique de cette sacralité intouchable du roi, est l'objet d'une première désintégration lorsque est pensée devant l'accumulation de ces nouvelles qui le privent progressivement des réserves de la force que le symbole utilise pour imposer sa puissance. Dans ce cas-là, sensible à cette réalité, Richard en vient à une première désintégration qui est fondée sur un contraste entre le roi réduit à son corps naturel souffrant et mortel et d'autre part un concept politique du corps du roi, mais qui n'est plus considéré dans cette série d'oppositions brutales comme une réalité à laquelle il faut adhérer, mais comme quelque chose de vain. Et finalement, il y a un mot qui est employé par Richard qui est « to monarchize », faire le roi, jouer le roi, comme si finalement il n'y avait qu'un individu de souffrance et que ce corps politique n'était qu'un fantôme, qu'un rôle que l'on tient, mais qui n'a pas de force en lui-même. C'est juste après ce que j'ai cité pour commencer, c'est-à-dire « Pour l'amour de Dieu, asseyons-nous sur terre et racontons la triste histoire de la mort des rois. Dans la couronne creuse qui ceint les tempes mortelles d'un roi, la mort tient sa cour. Là trône la bouffonne, raillant sa dignité, ricanant de sa pompe, lui accordant un souffle, une petite scène, pour faire le monarque, to monarchize. Être craint et tué d'un regard, lui insufflant une vaine opinion de lui-même, comme si cette chair, rempart de notre vie, était une citadelle de bronze, puis s'étant jouée de lui, pour finir, elle vient, et avec une petite épingle, perce le rempart du château et « Adieu, roi !» Couvrez vos têtes et ce qui n'est que chair et sang, ne le bafouez pas par des hommages solennels. Bannissez le respect, la tradition, l'étiquette, le cérémonial, car tout ce temps vous vous êtes mépris. Je vis de pain comme vous. Je ressens le manque. J'éprouve la douleur et j'ai besoin d'amis. Ainsi assujetti, comment pouvez-vous me dire que je suis roi ? » Donc vous voyez cette magnifique série d'oppositions dans lesquelles le corps naturel vulnérable et faible est soumis à la mort, et alors que la dignité, state, pompe, devait ou devrait assurer l'immortalité. Le corps est un corps de chair, un corps souffrant, un corps vulnérable, et s'oppose ainsi à une autre illusion, une vaine opinion, comme a traduit Desprats, qui est celle de la puissance invincible et le château le cuivre, le bronze de la citadelle seraient des images de cette illusion dans l'invincibilité du corps. Et donc, du coup, cette fin, très proche d'autres passages shakespeariens, où le roi est un corps qui a faim et souffre, est un homme qui a besoin d'amis, il est donc sujet à ses passions, sujet à la mort, et il n'est que cela. Et donc, la dignité du roi, qui en serait l'inverse, n'est qu'un fantôme. On a aussi, d'ailleurs, un peu auparavant, l'esquisse de ce qui va accompagner cette forme-là de dissociation entre le corps vulnérable et une dignité qui n'est peut-être qu'un songe, qu'une scène, avec la comparaison christique qui va être portée par cette image, puisqu'un peu plus haut, croyant la trahison de ces deux conseillers, Bushy et Green, en fait, qui n'est pas une trahison, puisqu'ils ont été capturés et exécutés, il les compare à des Judas. Et le langage biblique s'inscrit, commence à s'insinuer à l'intérieur du texte avec cette première comparaison fausse dans sa réalité, mais dans sa rhétorique, déjà décrivant Richard par lui-même comme souffrant la passion. C'est donc le premier moment de cette dissociation. Le deuxième est la scène suivante, acte 3, scène 3, lorsque Richard s'est retiré ou réfugié à l'intérieur du château de Flint avec la petite troupe de ses fidèles, et en particulier l'évêque de Carlisle et Omer, qui est le fils de York. Ici, un pas supplémentaire est franchi dans la désintégration, donc la séparation des deux corps, puisqu'on voit que dans la scène précédente, c'est à la fois un mouvement et une tension. Le renoncement, la désillusion sur la réalité des deux corps est contrebalancée par la réaffirmation de la sacralité du roi. Dans la scène du château de Flint, on a un pas supplémentaire, même si le mouvement est le même, parce que Richard est encore Richard II. L'imagerie du roi comme soleil, comme lumière, est reprise par Bolingbroke lui-même, puisque Bolingbroke et Northumberland arrivent au pied du château de Flint et ils voient apparaître le roi sur une plateforme ou sur les remparts. Et Bolingbroke décrit lui-même Richard comme encore roi. Voyez, le roi Richard lui-même apparaît, semblable au soleil rouge de colère, surgissant aux portes flamboyantes de l'Orient, quand il voit les nuages jaloux destinés à obscurcir sa gloire et à ternir le sillage de sa course éclatante vers l'Occident. Donc un roi qui se lève, qui apparaît à Bolingbroke, et l'imagerie du roi soleil, qui n'a pas attendu un autre souverain, est tout à fait présente ici dans le discours de Bolingbroke, et elle est réaffirmée par Richard lui-même, qui à un moment reprend Northumberland, qui s'est adressé à lui sans s'agenouiller devant lui, et dans sa réplique cinglante contre Northumberland, il reprend l'ensemble des éléments qui renvoient à la sacralité du roi. « Nous sommes stupéfaits, et longtemps nous avons attendu qu'avec crainte tu plies le genou devant nous, qui pensions être ton roi légitime, lawful king. Si nous le sommes, comment tes jarrets osent-ils oublier de rendre leur tremblant hommage à notre personne ? Si nous ne le sommes pas, montre-nous la main de Dieu, qui nous a démis de notre charge d'intendant, car nous le savons bien, aucune main de chair et de sang ne peut empoigner le manche sacré de notre sceptre sans profaner, voler ou usurper. » Donc on a le vocabulaire du sacred handle du sceptre, du roi comme steward, intendant de Dieu, et toute violation de cette sacralité ne peut être que profanation, vol ou usurpation. Profanation dans le registre du sacré et usurpation dans le registre de la continuité politique. En même temps, après cette double réaffirmation par ses ennemis et par lui-même de sa sacralité royale à travers les imageries symboliques traditionnelles du roi comme soleil, du roi comme lumière, Richard, forcé par les circonstances, est obligé à entreprendre ce travail de séparation de son corps mortel par rapport à la dignité royale. Ce travail commence dans un premier temps par le dépouillement matériel. Le roi doit se soumettre, et donc, puisque la réserve de force lui manque. Que doit faire le roi à présent ? Doit-il se soumettre ? Le roi le fera. Doit-il être déposé ? Déposed. Le roi s'y résoudra. Contented. Doit-il perdre le nom de roi ? Par Dieu qu'il l'abandonne. Je donnerai mes joyaux pour un chapelet, mon somptueux palais pour un ermitage, mes vêtements luxueux pour une robe de mendiant, mes gobelets dorés pour une écuelle de bois, mon sceptre pour un bâton de pèlerin, mes sujets pour deux statues de saints, et mon vaste royaume pour une petite tombe, une petite tombe, une tombe obscure, ou bien que l'on m'enterre sur la grande route du roi, quelque route fréquentée, où les pieds des sujets à toute heure pourront fouler la tête de leur souverain, car à présent que je vis, c'est sur mon cœur qu'ils marchent, et une fois enterré, pourquoi pas sur ma tête ? Et on voit que là, le dépouillement est matériel, avec l'image classique à la fois des danses macabres ou du couple du roi et du mendiant, puisque à chacun des biens est opposée une simplicité, une frugalité, une dureté d'une condition religieuse, pèlerin, moine, mendiant. Et d'autre part, il y a donc cette inversion sociale, l'inversion le roi devenu mendiant. Mais il y a aussi cette inversion symbolique, puisque, effectivement, la fin magnifique est le fait que si, dans la théorie des deux corps du roi, les sujets sont incorporés avec le roi dans une corporation dont il est la tête, et vous me rappeliez que sur l'image de frontispice du Léviathan de Hobbes représente cette corporalité du royaume dont le roi est la tête et les sujets, les membres. Évidemment, l'inversion est ici donnée puisque la tête du roi est sous les pieds de ses sujets qui la fouleront dans cette sépulture sur une des grandes routes du royaume. Là, le deuxième temps de cette séparation, et qui renforce les images du haut et du bas, c'est qu'à un moment donné, on est dans une situation jusque-là où le roi est sur une plateforme et où les Northumberland et Bolingbroke sont à ses pieds, ce qui peut être rendu dans le dispositif scénique des Public Amphitheatres, où duquel il y a une tribune où le roi peut être plus haut que ceux qui sont sur la plateforme au milieu de l'espace. Mais Northumberland appelle le roi à descendre parce que Bolingbroke l'attend au pied du château. Northumberland, Monseigneur, Bolingbroke, vous attend dans la basse cour, dans la cour basse, pardon, pour parler avec vous. Vous plaît-il de descendre? May it please you to come down? Je descends, pareil à l'intincelant phaéton qui ne peut maîtriser des carnes indociles dans la cour basse où les rois s'abaissent à venir à l'appel de traître et à leur faire honneur. Dans la cour basse, venir en bas, la cour, en bas, le roi. Car c'est la chouette qui crie là-haut où devrait chanter l'alouette. Alors toute la poétique, on peut dire, est très liée à cette utilisation de ce monosyllable, puisque dans la réplique de Richard, vous avez « down, down, I come, in the base court. Base court, where kings grow base. » Et après, il reprend « in the base court, come down, down court, down king. » Et donc, cette rythmique par « base and down » définit évidemment la totale inversion de la symbolique royale, c'est-à-dire de la tête qui est dominant le corps. Et cette symbolique que l'on a vue plusieurs fois répétée et qui là donc se trouve inversée. On avait donc une inversion du roi comme mendiant ou comme pèlerin, une inversion du roi par rapport à ses sujets, et ici une inversion de la majesté qui est abaissée au rang de ceux qui devraient être ceux qui la révèrent. Et de là, le dernier vers, car c'est la chouette qui crie là-haut ou devrait chanter l'alouette. Et Kantorowicz commentait ces passages en pensant que Richard II, à partir du moment où il y a cette réplique-là, va assumer un certain rôle, qui est un rôle finalement de fou, soit de fou moqueur des souverains, et on retrouvera ça un peu plus loin, soit même, comme pour les autres personnages, Northumberland dit « Douleur et chagrin du cœur le font déraisonner comme un démon, like a frantic man. » Mais il vient, c'est-à-dire un fou qui n'est pas un fou de rôle, mais qui serait en quelque sorte un dérèglement d'esprit, et où le roi va entrer dans ce jeu, en particulier en multipliant les puns, les plaisanteries sur renversant les termes. Bolingbroke lui dit « Mon gracieux seigneur, je ne viens chercher que ce qui m'appartient. » Donc il rappelle ici que, comme Lancastre, on ne peut pas le spolier de son duché. Et le roi lui répond « Ce qui vous appartient est à vous, et je suis à vous, tout est à vous. » Donc, le même jeu est souvent lié avec ces mots monosyllabiques dans l'anglais qui permettent évidemment des rebondissements et des plaisanteries très rapides et très fulgurantes. Du coup, ce qui est aussi mis en place dans cette scène et qui est important parce que, évidemment, la distinction entre une abdication volontaire du roi à la fois était ce que voulait le parti de Henri IV, donc légitimer l'abdication, enfin légitimer la transmission de la couronne par une abdication volontaire, inscrite d'autre part dans une tradition très bien étudiée par un livre de Jacques Lebrun sur les modèles anciens ou modernes des rois qui abdiquent volontairement le pouvoir. Les modèles anciens occupent la littérature romaine, et un modèle récent était l'abdication de Charles Quint à Yuste, le retrait dans le monastère. Et donc, un enjeu, lorsque cette transmission était référée à l'abdication volontaire, était évidemment d'inscrire ce geste dans une tradition et en même temps d'en faire le fondement légitime de la nouvelle, du nouveau roi. Et de l'autre côté, évidemment, que la déposition, vocabulaire employé par Richard, on l'a déjà rencontré, référait à un acte de force, un acte de violence et à une nécessité. Et c'est avec cela qu'il se retire et que termine cette scène lorsque Richard dit à Bolingbroke « Tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai avec plaisir. À ce que veut la force, on ne peut qu'obéir. En route pour Londres, cousin, c'est là que nous allons. « For do we must what force will have us do ?» La traduction, finalement, serait moins élégante, mais plus resserrée, c'est-à-dire ce que nous devons faire, nous devons faire ce que la force veut que nous fassions. Et donc, là, il y a comme une sorte d'ironie, à nouveau, dans ce moment de fou de Richard, puisque le vers d'avant se termine par « and willing to », et le fait de « will » va être ce qu'on va lui demander constamment, d'avoir voulu se retirer du pouvoir. Et donc ici, il crée ce contraste, puisque dans les deux vers, il oppose finalement le « oui, je veux bien, mais je veux quoi ? Je veux ce que la force nous oblige, et moi m'oblige à faire. » Et la dernière des scènes qui marquent l'étape ultime, c'est évidemment la scène du Parlement, celle qui n'était pas présente dans les trois premières, dans les trois premiers quartos, et qui est indiquée par la didascalie. Les noms des personnages sont mentionnés « as to Parliament », comme Parlement. Et ici, c'est une condensation par Shakespeare des événements qui se passent entre le 29 septembre et le 27 octobre 1399, dans une pièce qui, d'ailleurs, on l'a vu, a une durée, enfin, s'empare d'une durée historique brève. On avait vu que ce n'était pas le cas avec Henri VIII ou avec les pièces espagnoles. La durée de la pièce, c'est 1397, 1399, en fait 1400, qui est la date de la mort du roi une fois qu'il a été déposé. Ben, dans cette durée resserrée, il y a ici une condensation des événements dans cette scène du Parlement. Là, la scène est annoncée en son commencement comme si le roi avait volontairement abdiqué. C'est-à-dire la reprise en charge par York et par Bolingbroke, en passe de devenir roi, d'une décision volontaire. York arrive et s'adresse à Bolingbroke comme grand-duc de Lancastre. On voit ici que c'est le troisième des quatre noms du même personnage dans la pièce. Il a recouvré le nom patrimonial, le nom du domaine et de la lignée qui était celle de Jean de Lagan. On ne l'appelle plus Hereford, on ne l'appelle plus Bolingbroke. Grand-duc de Lancastre, je viens à toi de la part de Richard le Déplumé, qui, d'une âme consentante, with willing soul, t'adopte comme héritier et remet son sceptre souverain en la possession de ta royale main. Monte sur son trône, toi qui maintenant descends de lui. Et longue vie à Henri, quatrième du nom. Bolingbroke, au nom de Dieu, je monterai sur le trône royal. Donc, tout semble fait, puisqu'il est redevenu Lancastre, mais peu de temps pour devenir Henri IV. et que la volonté du roi est de l'admettre comme héritier, donc du coup de faire descendre de lui dans la lignée de la généalogie des rois, et en même temps, avec son consentement, de lui transmettre les insignes du pouvoir. On voit donc qu'il y a trois éléments. Le willing soul, c'est la libre volonté. Le fait qu'il est maintenant héritier, heir, c'est la légitimité d'une succession dynastique. Et le sceptre, c'est la transmission d'un des deux insignes fondamentaux du pouvoir. Et c'est d'ailleurs dans cette scène-là que l'évêque Carlyle, qui est resté un des fidèles de Richard II, va en quelque sorte refuser cette supposée acceptation de Richard II au nom de l'impossibilité de déposer un roi légitime. Canton Ravitch dit qu'il est le logothète, celui qui dit la loi, y compris contre ce qui pourrait être la volonté de Richard d'abandonner son corps politique. Et Carlyle, là, rappelle dans un ensemble tous les traits qui fondent la sacralité du roi. Il est l'image même de la majesté de Dieu, son capitaine, son intendant, le représentant élu par lui, sacré, couronné, planté depuis tant d'années, serait jugé par une voix sujette et inférieure sans que lui-même soit présent. On a donc le rappel à la fois de tous les qualificatifs qui peuvent être liés au roi, le roi qui est oint, qui est saint, le roi qui est couronné, le roi qui est inscrit dans une succession dynastique, de là le planted, et d'autre part, le fait qu'il est le capitaine, le steward, l'intendant, le député, le représentant de Dieu sur terre. Et en rappelant cette sacralité, il montre que l'acte, s'il est commis, cet acte impossible qui serait de déposer un roi qui peut devenir possible serait la source des malheurs du royaume amenés au déchirement, à la division, à la guerre, avec ce procédé qu'on avait déjà rencontré dans Henri VIII, évidemment, c'est-à-dire une prophétie qui est faite de quelque chose qui, effectivement, pour les spectateurs, est une réalité qui est déjà advenue. Et donc, Carlyle, comme Cranmer dans Henri VIII, annonce prophétiquement les guerres qui vont déchirer le royaume, mais il le fait avec une métaphore ou une image qui renforce cette idée de la christologie monarchique, puisqu'il dit « on nommera cette terre le champ du Golgotha ». Et c'est un second élément qui fait introduire la référence biblique, l'imagerie christique, dans la pièce. Et c'est là où on arrive au vers 153, qui est le début de la partie non présente, sans doute censurée, dans les trois premières éditions de Richard. Et peut-être d'entrée de jeu, on saisit une des raisons de cette absence, puisque ici, Northumberland s'adresse donc au Parlement et aux Lords, et il leur dit « Vous plaît-il, Seigneur, d'accéder à la requête des communes ?» To grant the commons suit. C'est-à-dire que le texte laisse entendre que la partie du Parlement qui est les communes, les représentants du peuple, ont une requête, une demande, et donc font pression politiquement sur la situation. Et comme je l'avais rappelé, ce rôle du Parlement séparé du roi est là différent de celui des Lords à l'intérieur du Parlement est évidemment une question politique délicate avec cette demande. Et dans le folio, c'est Bolingbroke qui prend la parole et qui dit « Faites venir Richard afin qu'aux yeux de tous, il puisse abdiquer. Ainsi, nous procéderons sans être soupçonnés. » Donc, Richard assume cette idée de convoquer le roi pour que publiquement il abjure et confirme ce que Northumberland a annoncé. Un trait intéressant est que dans le quarto de 1608, qui est celui qui a réintroduit cette scène, en fait, les lignes que je viens de lire sont attribuées à Northumberland. Il n'y a pas d'intervention de Bolingbroke. Ce qui fait que Northumberland dit « Vous plaît-il, Seigneur, d'accéder à la requête des communes ? Faites venir Richard, afin qu'aux yeux de tous, il puisse abdiquer. Ainsi, nous procéderons sans être soupçonnés. » Comme si c'était les communes qui demandaient la comparution du roi, et non pas que Bolingbroke. C'est Cynthia Susan Clegg qui a montré ça dans un très intéressant article, parce que, du coup, dans le quatrième quarto, le rôle des communes est encore plus fort que celui du folio. Non seulement ils déposent une requête, ils font une demande, mais cette demande a un contenu, c'est-à-dire de faire venir le roi pour qu'il abdique. Comme si, finalement, c'était cette volonté populaire incarnée par une partie du Parlement qui était l'élément décisif dans la déposition du roi. Alors, on peut commenter le fait que, dans le folio, ces vers sont attribués à Bolingbroke, ce qui atténue la requête des communes. Il y a bien une requête des communes, mais elle n'est pas forcément celle de demander l'abdication publique du roi. On peut l'interpréter évidemment comme la correction d'un texte qui aurait été trahi par l'édition du quarto de 1608. On peut l'interpréter aussi comme une volonté d'adoucir, de limiter le rôle des communes dans ce dispositif qui est celui de l'abdication du roi. Une retouche qui permettait de maintenir évidemment le rôle des communes, mais en même temps d'en limiter la puissance, l'importance. C'est là que Richard va intervenir, et c'est parmi les passages les plus célèbres de Richard II, parce qu'il y déploie à la fois en ses formes extrêmes l'identification au Christ, l'identification à la passion du roi, qui est celle identifiée avec la passion du Christ. Il y a de nouveau une référence à Judas, mais qui s'est amplifiée. « Mais je me souviens bien du visage de ces hommes que j'ai comblés. N'était-il pas à moi ? Ne me criait-il pas naguère « Salut à toi !» comme Judas au Christ ? Mais lui, sur 12, les trouva tous fidèles, sauf un. Moi, sur 12 000, aucun. Dieu garde le roi. N'y a-t-il personne pour dire « Amen » ? Suis-je à la fois le prêtre et l'enfant de cœur ? Eh bien alors, amen. Dieu garde le roi, bien que ce ne soit pas moi. Encore amen, si le ciel veut que je le sois. » Donc il y a là, et un peu plus loin, il y aura une référence à Pilate, sans doute une référence qui venait d'une des sources historiques, qui est la chronique de Froissart sur le règne de Richard II, où il est décrit Henri, maintenant IV, ou potentiellement IV, potentiellement roi, comme absent, muet de cette scène, comme un Pilate qui s'en laverait les mains et qui serait insensible à ce que Richard décrit comme sa croix amère, poussant encore plus loin l'identification christique et donc donnant sa forme tragique à cette christologie royale dont parle Cantorowicz. Il y a d'autre part l'inversion des pouvoirs qui a plusieurs images dans le texte, et ici c'est cette image de la couronne qui est tenue d'un côté par Richard et de l'autre par Bolingbroke, Hereford, Lancaster, comme vous voudrez, mais qui devient Henri IV. Donnez-moi la couronne, ici cousin, prends la couronne, ici cousin, de ce côté ma main, de ce côté la tienne. À présent, cette couronne d'or est comme un puits profond qui possède deux seaux, se remplissant l'un l'autre. Le plus vide, dansant toujours en l'air, quand l'autre est en bas, invisible et plein d'eau. Le seau d'en bas, plein de larmes, c'est moi, qui bois mes chagrins. Et celui qui monte, c'est toi. C'est-à-dire qu'on reprend ici l'image des deux seaux, qui est comme une forme inversée d'une autre image qui était apparue plus avant et qui était l'image d'une balance. Mais dans ce cas-là, le poids lourd était du côté de Bolingbroke avec ses amis, ses alliés, ses troupes. Et le roi, lui, était léger sur le côté de plateau d'une balance où il n'y avait plus que d'autres poids en sa faveur. Là, l'inversion, puisque c'est lui, le roi, qui, avec ses larmes, est du côté des seaux qui se remplit et qui touche terre, et Bolingbroke qui s'élève vers la dignité. L'enjeu devient, à partir de ce moment, essentiel. C'est un enjeu, finalement, de désignation. Est-ce que Bolingbroke résigne avec bonne volonté ou est-ce qu'il est déposé? Est-ce que Richard, comme le dit Bolingbroke, résigne sa couronne avec bonne volonté ou est-ce que, comme il le dit lui-même, il est déposé? Et c'est là où le retrait, le demise du corps politique du corps physique, du corps politique, atteint son maximum à la fois sur plusieurs modes. Il y a d'abord un mode psychologique, si j'ose dire, sans anachronisme, qui est l'idée que le roi peut transmettre sa couronne, mais qu'il conserve ses chagrins. Et du coup, on voit, alors que Bolingbroke lui dit « Mais en me transmettant la couronne, vous me transmettez aussi les chagrins. » Non, répond Richard, parce que les chagrins appartiennent au corps naturel maintenant retiré de la couronne, alors que la couronne, elle, peut être transmise et habitée par un autre. Il y a un mode spectaculaire, solennel, qui fait le moment clé de la pièce, c'est-à-dire un couronnement à l'envers. Le fait que Richard, d'une manière solennelle, ritualisée, cérémonielle, se détache de chacun des insignes qui marquent le corps politique du roi, pour finalement se retrouver un corps naturel, seul, abandonnant et abandonné. C'est ce dépouillement symbolique qui vient redoubler celui que je mentionnais avant. Le dépouillement dans la scène précédente est un dépouillement matériel. Le roi devient mendiant, le roi devient pèlerin, le roi devient moine, il abandonne tous les biens terrestres. Ici, il abandonne symboliquement tous les insignes qui font le corps politique. « Consentez-vous à abdiquer la couronne ?» lui demande Bolingbroke. Et on trouverait là le mot « contented », qui signifie à la fois assentiment, consentement et en même temps contentement. Et Richard lui répond « Hi, no, no hi », souvent commenté puisque « hi » peut être une expression, une interjection, mais peut être aussi « je ». Et donc du coup, le « je »,« non »,« non »,« moi » crée avec quatre mots cette ambivalence, déchirement, tension de Richard qui est abdique en étant déposé ou qui est déposé, donc du coup abdique. « Car je dois n'être rien. » Alors, oui, non, ni oui, car je dois n'être rien, ni non, car j'abdique entre tes mains. Vois maintenant, mais et là il reprend le vocabulaire de l'autre, I resign. Vois maintenant comment je me dépouille moi-même, I will undo myself. Je donne ce fardeau qui pesait sur ma tête et ce sceptre encombrant qui était là dans ma main, l'orgueil du sang royal qui emplissait mon cœur, de mes propres pleurs, je lave l'onction du sacre. De mes propres mains, j'abandonne ma couronne. De ma propre langue, abjure ma dignité sacrée. De mon propre souffle, annule tous les serments de loyauté. J'abdique toute pompe et toute majesté. Mes manoirs, rentes, revenus, je les cède. Mes actes, décrets, statuts, je les annule. Dieu pardonne tous les serments envers moi violés. Dieu maintienne inviolés tous les serments que l'on te fait. Moi, qui n'ai rien, qu'il ne m'inflige aucun souci, qu'il te comble de tout, toi qui as tout acquis, sur le trône de Richard que tu vives longtemps, qu'enterre dans un trou Richard soit promptement, que Dieu garde le roi Henri, dit Richard détrôné, unkinged Richard, et lui envoie maintes années de jours ensoleillés, que reste-t-il d'autre? What more remain? Donc il y a cette cérémonie du couronnement inversé, chaque insigne étant abandonné l'un après l'autre, et le résultat est évidemment l'exposition nue du corps individuel, du corps physique, du corps naturel. Et on voit à cet abandon progressif qui fait ce retrait et qui expose l'individu à sa seule nature humaine, vulnérable, mortelle. Et le roi, à ce moment-là, a le même, a une réflexion qui est parallèle avec celle de Carlyle. Est-ce qu'il peut le faire ? Est-ce que ce n'est pas là que trahir ses propres, son propre serment ? Mes yeux sont pleins de larmes et je ne vois rien. Et pourtant, l'eau salée ne les aveugle pas au point qu'ils ne puissent voir ici une meute de traîtres. Que dis-je ? Si je tourne mes regards sur moi-même, en moi, je vois un traître comme les autres, car j'ai ici donné le consentement de mon âme à dépouiller le fastueux corps d'un roi. J'y avilis la gloire, j'ai fait de la souveraineté une esclave, de la fière majesté un sujet, du pouvoir un manant. Et on a ce mouvement qui est celui où le roi traître à lui-même, et ce sera repris d'ailleurs par Charles Ier pendant la guerre civile. Il y a un texte dans un poème dans lequel... qui lui est à propos de sa mort, ou la même idée de la trahison du king avec une majuscule, c'est-à-dire du corps politique, par le king avec une minuscule, c'est-à-dire l'individu de chair et d'os, renvoie à la même thématique d'une possible trahison du roi par rapport au roi, du roi personne par rapport au roi dignité. Et le mouvement qu'engendre cette réflexion de Richard traître à lui-même est le mouvement qui pousse à l'extrême cet dénuement ou ce dépouillement du corps individuel, du corps physique, qui amène le climax de la pièce dans la mesure où ce qui est laissé là est peut-être rien. C'est-à-dire le fait que si le corps humain du roi incorporait son corps politique, l'inverse était vrai. Le corps politique incorporait le corps personnel et dépouillé de ce corps politique, le corps personnel est peut-être lui aussi dissous, détruit. Je n'ai pas de nom, pas de titre, non, même pas le nom dont on me baptisa qui ne soit usurpé, hélas. Jour d'affliction, moi qui ai consumé tant d'hiver, aujourd'hui, je ne sais de quel nom m'appeler. Oh, que ne suis-je un roi de neige dérisoire, exposé au soleil de Bolingbroke pour fondre et m'évanouir en gouttes d'eau. Le King of Snow, c'est-à-dire finalement rien, une vulnérabilité qui se termine par le néant, devient l'image que Richard s'applique à lui-même, puisque, ayant perdu le corps politique, il a aussi, du même coup, perdu son corps personnel. Cette incorporation réciproque amène à cette extrême situation où le roi n'est plus dans une des plus belles lignes du texte, ce roi de neige qui fond au soleil de Bolingbroke. Et la manière pour Shakespeare de rendre perceptible ce traitement des deux corps du roi qui va au-delà de ce que la théorie politique pouvait en dire, puisque finalement, le fait que le corps naturel s'est retiré du corps politique peut être compris comme la destruction de ce corps naturel lui-même. C'est ce moment où Richard demande qu'on lui apporte un miroir et où Bolingbroke accepte. Et d'ailleurs, avec un jeu que fait remarquer l'édition de la Pléiade de Madame Vernet, qui est que Richard demande un mirror et que ce qu'on lui apporte, c'est looking glass, a glass. Et la différence est que glass renvoie à un objet, effectivement, c'est celui qui est apporté sur la scène, alors que mirror avait un sens matériel, qui est bien sûr celui d'un miroir, mais il avait aussi un sens figuré, c'est-à-dire le miroir des princes, cet ensemble de textes qui définissaient le portrait idéal du roi, soit le portrait d'un roi qui avait régné, soit le modèle idéal du roi qui devrait régner. Et donc, du coup, ce à quoi va se comparer ou dans quoi va se regarder Richard n'est pas simplement le miroir qui lui montre son corps, mais est ce miroir figuré qui est celui des princes idéaux qu'il a trahis. Et comme vous vous souvenez, il brise le miroir dans la mesure où, d'une part, ce corps naturel n'est plus le sien, comme si l'abandon du corps politique faisait que le corps naturel aussi avait disparu, et donc le bruit du miroir correspond dans un certain sens avec l'image merveilleuse du roi de neige, et d'autre part aussi parce qu'il ne se reconnaît pas, il ne peut pas reconnaître lui-même dans ce miroir, qui serait ce miroir figuré, le portrait du prince idéal. Et donc là, le roi est, dans ce sens-là, séparé de lui-même. Il est réduit à n'être rien, à un être sans nom, comme il le donne dans cette réplique. Et du coup, à la page, enfin, dans vers la fin de cette scène, il reprend ce rôle d'un fou, mais d'un fou de cour, puisqu'à un moment donné, Bolingbroke lui dit « Beau cousin », s'adresse à lui en lui disant « Beau cousin ».« Beau cousin, je suis plus grand qu'un roi, car lorsque j'étais roi, mes flatteurs n'étaient que mes sujets. Maintenant que je suis un sujet, voici que j'ai un roi pour flatteur. Étant si grand, je n'ai nul besoin de mendier. » C'est une réplique tout à fait qu'on peut trouver dans les répliques des fous de rois qui jouent constamment sur... Il y a par exemple dans le début de Twelfth Night, un jeu de ce type, ce n'est pas un fou de roi, mais dans le même jeu avec le moi est inversé. Donc, on a là le départ pour la tour de Londres du roi qui ne l'est plus, mais qui pourtant, dans sa dernière, ligne, le redevient en un bref moment, puisqu'on va l'escorter jusqu'à la tour où il va être prisonnier. Richard dit à ce moment-là, « Oh, parfait, vous êtes une escorte d'escrocs, parce que le mot étant en tout cas convey him to the tower, avec une ambiguïté sur le convey. Ah, parfait, une escorte d'escrocs. Escrocs, vous l'êtes tous, vous qui êtes si agiles pour vous élever par la chute d'un roi légitime. The true king's fall. Jusqu'à la fin, il reste à ses yeux ce roi légitime, là encore dans un éclair, après les moments successifs de sa dépossession et finalement séparation d'avec lui-même qui le conduit à nothing, à être rien. Dernière remarque, et je termine, c'est vers la fin de la scène que l'on retrouve cette présence qui est sans doute la raison fondamentale de l'absence du texte dans les premières éditions, puisque Northumberland revient à la charge en disant « Les communes ne seront donc pas satisfaites. » De quoi s'agit-il ? On a demandé à Richard de lire la liste de ses crimes et donc, en quelque sorte, de se confesser publiquement d'avoir été un roi traître aux coutumes fondamentales du royaume. Ce qu'il refuse de faire et à quoi il substitue la demande du miroir et le fait que ce qu'il va lire, ce n'est pas une liste de crimes, c'est ce qu'il est lui-même, et comme on l'a vu, d'une manière illisible, puisque son image ne renvoie ni à lui, ni à rien, simplement à ce roi de neige. Mais la référence ici de Northumberland renvoie à cette idée que dans le texte, volontairement ou non, il y a un rappel du rôle important du Parlement et dans le Parlement des communes dans ce moment de la déposition du roi. Et ce qui était, du temps de la reine Élisabeth, considéré comme sans doute une transgression de, à la fois, un certain silence imposé sur la succession et, d'autre part, un refus absolu de la, d'un rôle joué par, les, par le Parlement dans cette transmission dynastique. Cela a changé en 1608 ou en 1623, mais comme on l'a vu, avec une certaine prudence qui est que par rapport à le texte du quarto, le texte du folio est en retrait sur ce qu'ont demandé réellement les communes. Ce qui me permet la fin de dernière réflexion, c'est-à-dire qu'on voit là comment Shakespeare s'empare de la chronique d'Olinshed de 1587, parce que dans la chronique, le Parlement est présent, mais seulement pour confirmer la abdication et consentir au couronnement d'Henri IV. Et ce n'est qu'après abdication et couronnement que le Parlement demande dans la chronique que soient rendues publiques les raisons de cette déposition, donc la publication, la publicité des fautes ou des crimes du roi. On voit que dans la pièce de Shakespeare, même dans le folio, le Parlement est présent avant l'abdication et le couronnement. Dans le folio, il est présent pour demander cette publicité de la comparution du roi, mais dans le quarto, il est présent pour demander le jugement et l'abdication du roi. On voit donc là qu'il y a le travail sur la chronique dont les intentions restent obscures. Peut-être que, comme le suggèrent certains lecteurs de la pièce, Shakespeare en tire surtout un effet dramatique sans peut-être mesurer les conséquences politiques qu'a ce rôle donné aux communes, parce que rien ne laisse entendre qu'il veut écrire une pièce qui défendrait les droits du Parlement et en particulier des communes contre la monarchie absolue et souveraine. Mais c'est l'effet que produit évidemment la pièce. Alors, deux remarques pour clore. D'une part, je laisse à votre lecture la dernière acte de Richard II, et simplement pour dire que les choses ne se terminent pas bien pour lui. Et d'autre part, bon, pour vous remercier de votre présence, et d'autre part, pour essayer de dire que l'intention de cette série de cours était, comme je l'ai dit pour commencer, à la fois d'essayer d'explorer une question qui est très forte pour nous aujourd'hui, quelles sont les différentes formes de présence du passé dans notre contemporanéité, les mémoires qui sont collectives ou individuelles, monumentales ou mentales, les fictions si nombreuses, et maintenant, plus qu'après Shakespeare, cinéma, télévision, la série des Tudor, qui a pu être un écho avec l'Élisabeth et la Marie de la semaine dernière, et puis l'histoire, telle que nous essayons de l'écrire ou de la lire. Et donc, c'est cette question-là du présent, si forte, qui peut amener à une série d'enquêtes rétrospectives pour voir comment différentes formes de la fiction, pour moi, je me suis centré sur le genre que je préfère et que je connais le mieux ou le moins mal, c'est-à-dire le théâtre, se sont emparées de l'histoire, à la fois l'histoire telle qu'elle était narrée, narrée dans les chroniques, narrée dans les histoires, et aussi l'histoire qui, au-delà ou en deçà de ces narrations, est ce qui est advenu. Et ce travail de Lope, de Calderón, de Shakespeare peut peut-être aussi nous aider à mieux situer nos différentes formes de rapport avec le passé devenu et maintenu comme présent dans les sociétés qui sont les nôtres.